C'est maintenant le moment de la conférence et je vous donne la parole, Madame Zouhari.
Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je crois que de mémoire de musulmane, on a rarement vu une femme à la chair. C'est arrivé aujourd'hui. Ce n'est pas dans une mosquée, c'est une église ou un temple, mais Dieu n'est-il pas partout, dans tous les lieux de culte? Alors je voulais vous dire que quand on est amené de sauter d'un pays à un autre comme moi, j'étais à Tunis, je reviens en France, je repars à Tunis, on ne sait pas de quel côté du lit on dort quand on se réveille le matin, dans quel tiroir on a glissé un carnet, où on a enfoncé la clé du contact de la voiture, dans quelle voiture, celle de France ou de Tunis, de quel côté du paysage s'ouvre la fenêtre, selon que l'on soit au nord ou au sud, sur le stade de la banlieue parisienne ou sur le verger de son propre village natal. Et surtout, quelle langue parler ? J'ai fait exprès d'écrire ces phrases pour ne pas avoir à trop bafouer au début. Et parce que je vais vous demander pardon si j'oublie les mots, si je marque des silences, si je fais des fautes de français, si certaines expressions sont une traduction littérale de l'arabe. L'exil, c'est ça aussi. C'est une dyslexie spatiale, temporelle, linguistique. L'exil, c'est une dyslexie existentielle. Et je la vis devant vous. Cela me rappelle la parole d'un Chibani, un vieux maghrébin que j'avais rencontré dans un café à Paris, un café, ce qu'on appelait le café social, où beaucoup de vieux maghrébins venaient prendre un café. Et je lui disais, mais alors, tu aimes mieux être en Tunisie ou en France? Et il répondait, ben, j'aime mieux être dans l'avion. Parce qu'au fait, il n'y a pas de frontières. Il m'a dit à une hôtesse de l'air qui s'occupe de moi, il ne se pose pas la question de quel côté nous sommes. Et véritablement, il y a des fois où moi j'ai envie d'être là, mais vous verrez à la fin, je vous dirai où est-ce que j'ai trouvé une patrie. Alors j'aurais voulu commencer par cette rencontre avec la formule « Il était une fois », puisque je viens d'Orient, sauf que je n'aime pas la formule et je n'aime pas Shirazade, la Shirazade fameuse des mille et une nuits. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec Shirazade ». Pourquoi ? Parce que Shirazade n'a fait que raconter la nuit, là où moi, en tant que femme moderne, je voudrais raconter le jour. Shirazade a raconté parce qu'elle devait survivre, donc elle racontait sous la menace, là où moi j'ai envie de raconter sous aucune menace, mais librement. Shirazade a raconté pour amuser la gente masculine, là où je voudrais dire « je », et vous avez remarqué que Shirazade ne dit jamais « je ». D'ailleurs, les mille et nuits racontent des histoires tierces, mais jamais la vraie histoire de Shirazade, le corps de Shirazade, le bonheur ou non de Shirazade. Shirazade ne dit pas « je ». Et moi, personnellement, j'ai pris le parti d'écrire tous mes livres avec le « je ». Donc « je » n'est pas un autre, « je », c'est d'abord moi-même. Et pour une femme, c'est vraiment l'époque où on peut dire « je ». Donc voilà pour Shirazade. Et c'est peut-être là aussi une conséquence de l'exil, parce que c'est une migration de l'imaginaire arabe. C'est une migration, pas un refus, mais je dirais un éloignement du référentiel de la tribu qui est, en gros, Shirazade et tout ce que vous savez autour de l'Orient. Donc c'est une forme de refus de l'orientalisme du dedans. Alors, au lieu de dire « il était une fois », je vais user d'une autre formule. Imaginons ou imaginez. Alors imaginez avec moi un village au fin fond de la Tunisie des années 50. Alors c'est un village minuscule avec au centre, comme dans tous les villages des pays musulmans, arabo-musulmans, vous avez la mosquée, vous avez une école, vous avez un dispensaire, vous avez le souk et vous avez le mausolée. Alors, imaginez une famille Zouhari qui est au centre du village. et qui gère tout. Elle gère aussi bien les affaires religieuses que les affaires temporelles. Pourquoi ? Parce que mon père était cheikh de son état. Et le cheikh, vous savez, c'est à la fois le chef religieux, mais c'est celui qui s'occupe aussi des naissances et des décès. Il s'occupait tellement des naissances qu'il inscrivait les dates de naissance de tous les petits du village, sauf les siens. Ce qui fait que nous sommes 9 dans la famille et personne, aucun de nous, ne sait exactement quelle est la date de sa naissance. Et ça donnait donc des querelles entre mon père et ma mère, les femmes sachant bien entendu quand exactement un enfant est né, et le père disant « Mais non, femme, tu n'as rien compris, si c'est écrit, même si je l'écris en retard, eh bien c'est la date. » Et ma mère qui dit « Ben non, c'est moi qui l'ai fait, et je me souviens ce jour-là, etc., etc. » Donc ça donnait lieu à des querelles tout à fait sympathiques entre mes parents. Donc voilà, alors mon père à qui je pourrais d'ailleurs rendre hommage, mon père était un homme de l'écrit, c'était le seul dans la famille qui savait lire et écrire. L'arabe, bien sûr, nous ne connaissions pas le français. Et mon père, qui chaque fois qu'il voulait dire qu'il disait la vérité, il disait « pas sur la tête de Jésus ». Donc, c'était une façon, oui, en arabe on dit « wa haqq al-masih ». En fait, c'est même pas sur la tête de Jésus, c'est par la vérité, par la part vraie de Jésus. Et mon père, qui était cheikh musulman, donc, avait cette expression. Raison pour laquelle, des années plus tard, j'ai fait un livre avec d'autres amis musulmans qui est sorti aux éditions des Clés de Breuer et qui s'appelle « 12 musulmans parlent de Jésus ». Et donc, ces 12 musulmans qui viennent de partout, hein, il y a des Libanais, des Tunisiens, des Subsahariens, ont chacun dit, ce sont des écrivains, hein, donc ce n'est pas des textes d'historiens. On dit quelle relation ils ont avec Jésus. Alors, imaginez maintenant un arbre généalogique qui indique toute l'ascendance. Et moi, je l'ai à Paris, je l'ai accroché dans ma maison. Et dans cet arbre généalogique, donc, on remonte très très loin. Et je ne sais pas si certains de vous ont vu ces arbres généalogiques manuscrits. On commence donc par le grand-père et on arrive jusqu'à Ève et Adam. Donc moi, dans mon arbre généalogique, on arrive jusque donc Adam et Ève, en passant par Noé, bien sûr, qui a sauvé notre tribu, ça va de soi, et en passant aussi par le prophète. Parce que dans toutes ces familles, entre guillemets, chérifiennes, on cherchait toujours un lien avec le prophète de l'islam pour dire que nous sommes une famille noble. Souvent, ce n'est pas vrai, mais c'est une sorte de géographie du sacré. Donc, nous, on passe, paraît-il, il y a un cousin du prophète, qui serait aussi dans notre arbre généalogique, ce qui fait qu'un de mes cousins, jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il se fâche, il dit, et il n'a rien, il dit, moi je vais demander aux Saoudiens ma part de pétrole aujourd'hui, parce que j'ai bien un cousin qui était le cousin, un parent qui était le cousin du prophète. Alors pour vous dire tout ça, que le monde autour de nous tournait autour de nous, nous étions le centre. Le centre qu'on ne quitte pas. Nous sommes la frontière infranchissable. D'ailleurs, personne ne partait et ne part de chez nous, surtout pas les femmes. Pour vous dire que je suis la première femme à avoir émigré dans ce village. Donc, c'est le monde qui vient vers nous. Et ça, ce qui le confirme, c'est la légende même de notre arrière-arrière-grand-père, qui est donc un saint canonisé par les musulmans, qui a vécu au XIVe siècle. Son histoire, c'est que donc il allait de pays en pays, il venait peut-être d'Arabie ou de Libye, et puis à un moment, il s'arrête sur une plaine et il lisait le Coran, il lisait des versets, etc. C'était une sorte d'ermite, d'homme très religieux, il faisait son pèlerinage, et puis à un moment il est fatigué, il s'endort, et quand il s'endort, il y a quelqu'un qui passait par cet endroit-là et qui voit des oiseaux qui étaient en train de nettoyer le burnous de cet homme, des bêtes, des poux qu'il y avait dedans, et donc il s'arrête, il dit, pour que les oiseaux de Dieu nettoient et s'occupent de cet homme, c'est qu'il doit être un saint. Et donc, au lieu de continuer sa route, ce passant reste sur place. Et le deuxième et le troisième. Et c'est comme ça que se constitue donc le village, le mausolée. Et celui qui passe en arabe s'appelle Zahir. Le pluriel, c'est Zouar, d'où le nom Zouari. Alors maintenant, imaginez une petite fille qui n'a jamais vu la mer et qui n'avait pas de corps. Parce que du plus loin que je me souvienne, je vois tout. Je me vois courir, je me vois tomber, mais je ne vois jamais de corps. Je n'ai pas de corps. J'ai compris bien plus tard pourquoi je n'avais pas de corps. Parce qu'on était donc 9 et il y avait des filles, mes sœurs aînées. Mes sœurs aînées sont venues avant l'indépendance en Tunisie, c'est-à-dire avant 1955, et elles ont été, la première n'a jamais été à l'école, les deux autres ont été à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, mais on ne savait pas l'âge exact. En tout cas, elles ont été à l'école primaire, et à partir du moment où elles commençaient à avoir des formes, ma mère a dit « maintenant c'est terminé ». Donc, elle les a cloîtrés en quelque sorte. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu le film Mustang, le film turc, dans lequel donc il y avait ces jeunes filles que la mère oblige donc à qu'elle met derrière les murs et ces filles ne sortent plus. Ça a été exactement le cas de mes sœurs. Donc à partir de cet âge-là, elles ne sont plus sorties de la maison, elles ont attendu le mari. Et donc moi j'ai compris. Et comment moi j'ai compris que parce qu'elle commençait à avoir des seins, parce qu'elle commençait à avoir des formes, que ma mère a vu que le danger était là. Et donc, je me suis efforcée à ne pas avoir de corps, ce qui fait que j'ai été tellement maigre de toutes les façons qu'on m'appelait la famine, parce qu'il ne fallait pas que je mange, il fallait que je reste inexistante pour que je puisse continuer à aller à l'école. En tant qu'écrivain, on écrit toujours avec des scènes fondamentales. Et moi, il y a toujours une scène qui revient dans tous mes livres. C'est le jour où ma mère a brûlé les cartables de mes sœurs. Donc, ces sœurs-là, au mois de juin, ma mère a dit « c'est terminé ». Et donc, on avait les grands fours à pain auparavant, donc, dans lesquels on mettait du bois, des choses comme ça, et elle a allumé le feu, et elle a donc jeté toutes les affaires de mes sœurs, les cartables, les tabliers, tout ça. Et donc, j'avais assisté à une forme de scène d'hystérie, qui était celle de mes sœurs, qui savaient que c'était terminé. Et le plus dur, c'est que à la rentrée, donc moi je devais aller à l'école, c'était ma première année, et ce sont mes sœurs qui m'ont emmenée à l'école, qui m'ont déposée à l'école, qui sont reparties, et la porte s'est refermée. Donc j'ai su à partir de ce moment-là ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas avoir de corps, il fallait absolument étudier, mais alors à fond pour ne pas rentrer à la maison. Et c'était le pari qu'il fallait que je prenne. Donc j'ai eu 12 ans et j'ai eu mon certificat d'école primaire. À l'époque, il n'y avait pas de collège ni de lycée dans mon village, donc il fallait que j'aille à 30 km de mon village dans une ville qui s'appelle Le Kef pour continuer mes études secondaires. Voilà mon premier exil. Parce que 30 km, pour moi, la petite fille que j'étais, c'était Paris. C'était trop loin. Je n'étais jamais, jamais sortie de mon village. Donc, faire 30 km pour aller dans un pensionnat dont je n'allais pas sortir qu'une fois par mois, c'était véritablement un exil. Et je le décris d'ailleurs, c'est un livre que j'ai jamais publié. Je l'appelle d'ailleurs « Harem sans plaisir » parce qu'on était une majorité de filles. C'était une nouvelle famille que se constituait. On était dans une région où il faisait tellement froid que c'était le goulag, mais ce n'était pas un problème. J'use de la métaphore du corset. Pour nous, c'était quelque chose qui faisait qu'on tenait debout pour continuer nos études. Alors, avant de partir, ma mère m'a préparée. Elle m'a préparée, elle et une cousine. D'abord, la cousine, elle a dit... Elle a eu son certificat d'études primaires. Je vais lui faire un cadeau. Et le cadeau en question, elle m'a colorié les cheveux, elle m'a teint les cheveux à l'eau d'oxygénée. Donc, je suis devenue blonde, mais blonde comme les blés, à l'âge de 12 ans. Et j'avais l'impression qu'on m'avait vissé une tête d'étrangère sur mon corps. Donc, voilà aussi une autre forme d'exil que de se retrouver dans une autre tête que la sienne et de celle de sa tribu. Après, ma mère, elle a dit, on va passer par le rituel par lequel mes sœurs sont passées. C'est un rituel qui existe encore dans la campagne tunisienne. Parce qu'on a l'impression, bon, c'est vrai, c'était les années 50-60, et parfois j'ai affaire à un public tunisien très moderne qui dit, ah bon, mais ça se passait comme ça en Tunisie. Ben oui, ça se passait comme ça en Tunisie. Et le rituel en question, c'était donc de ferrer les filles, de fermer l'hymen des filles, mais ce n'est pas du tout l'excision façon subsaharienne ou égyptienne, c'est une sorte de fermeture de l'hymen avec les mots, avec la formule. C'est le pouvoir des mots qui va fermer le corps des filles. Et le rituel, c'était, donc on mettait une, je le décris d'ailleurs, ce livre commence par cette scène-là parce que je m'en souviens très bien, il y a un métier à tisser. On nous demande, les petites filles, de traverser 7 fois. Et à chaque fois, et après, quand on a traversé, on nous fait une petite entaille au niveau du genou. Dans la petite goutte de sang qui sort, on met un raisin sec et on nous le fait manger. Et en le faisant manger, on doit répéter la formule « Ma fille est un mur et le fils du voisin est un fil ». C'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais à déchirer l'hymen de la fille. Et quand vous avez 12 ans, vous dites « ça y est, mon corps, c'est terminé ». Comme disait ma mère, c'est une forteresse, aucun mal ne peut t'approcher. Et on ne savait pas, et elle ne savait pas que ça pouvait fermer le corps des filles définitivement. Parce qu'on se dira toujours « mais non, personne, aucun garçon ne pourra m'approcher ». Je vais passer la séquence du pensionnat. C'est un petit peu comme tous les pensionnats. C'est plein de rêves, de frustrations, etc., de petites amourettes du début, mais c'est pas intéressant. Maintenant, imaginez la fille de 18 ans qui arrive à Tunis. Donc, elle va à la faculté. Nous sommes dans les années 70. Alors, on l'a dit brillante. En fait, elle a tout fait pour ne pas rentrer à la maison. Elle a l'embarras du choix. Elle peut faire toutes les sections, l'arabe, le français, le droit, la médecine, tout ça, elle choisit de faire français. Pourquoi ? Alors, je vais expliquer peut-être ça par une histoire quand j'étais au lycée. Vers l'âge de 15 ans, je suis tombée amoureuse de mon professeur de français et donc je faisais tout pour le séduire. Mais comme à l'époque, on pouvait pas se mettre de rouge à lèvres, de colle et tout ça. Je mettais un peu de dentifrice, enfin des choses comme ça. Je souriais et je voulais séduire mon professeur. Et à l'époque, moi, chez nous, on ne lisait pas. Dans notre maison, il y avait le Coran et puis c'est tout. Et quand j'ai commencé à aller au lycée, j'ai commencé à lire Madame Bovary. Et Madame Bovary trônait à côté du Coran dans notre maison. C'était les deux livres et ça n'avait rien à voir. Heureusement que mon père ne savait pas ce qu'il y avait là-dedans. Et donc Madame Bovary, moi je l'ai lu comme j'avais pas d'autres livres. Je l'ai lu une fois, deux fois, 10 fois. Raison pour laquelle souvent je dis qu'on ne devient pas écrivain parce qu'on a beaucoup lu. On devient écrivain aussi parce qu'on a lu un seul livre 10 fois, tout simplement. Moi j'avais pas d'autres occasions de le faire. Donc je croyais que j'étais amoureuse de mon professeur de français et j'ai compris bien plus tard qu'en fait j'étais amoureuse d'une langue qui est la langue française et que c'était peut-être, ce sera peut-être la raison fondamentale pour laquelle je partirai. Oui, il y avait une autre scène que je voulais vous raconter. Donc un jour j'étais au lycée, toujours 15 ans, je rentre à la maison. Et je suis allée voir une cousine, c'était le week-end, et mettons, au lieu de rentrer vers 7h du soir, je rentre vers 9h du soir. Et entre-temps, et ce jour-là, il y a un de mes cousins, celui qui réclamait justement sa part de pétrole d'Arabie Saoudite, qui avait fait une incursion en France cette année-là. Et donc, il était de passage au village. Et quand je rentre à la maison, je trouve ma mère j'aurais dit qu'elle était morte, et autour d'elle, il y avait mes tantes, il y avait tout le monde qui pleurait, qui s'arrachait les cheveux, et qui m'ont arraché les cheveux avec cette phrase qui se répétait, « Tu as tué ta mère, tu as tué ta mère ». Et en fait, parce que ma mère, ne me voyant pas revenir tôt, elle a cru que je m'étais enfuie avec mon cousin en France. À l'époque, moi, je n'avais aucune idée de la France, aucune idée d'aller en France. C'est un pays qui ne me disait rien du tout, à part sa langue, et encore, je ne le savais pas. Et il a fallu 30 ans plus tard pour qu'un psychanalyste tunisien m'explique, tu vois, ta mère, ce jour-là, elle a su que tu partirais un jour. Et ça, c'est le pouvoir des mères, je dois l'avouer. Alors, j'arrive donc à la fac, je m'inscris en littérature française, je veux le diplôme, je veux le savoir, c'est l'époque de Bourguiba, je suis une fille de Bourguiba, et Bourguiba dit, je vous promets un travail, surtout, ayez un diplôme. C'est pas du tout comme maintenant, la Tunisie actuelle, on s'en fiche du diplôme, c'est de trouver un boulot. Or, le pacte national qu'a instauré Bourguiba après l'indépendance, c'était de dire, vous travaillez, vous avez un diplôme, et moi je vous garantis un boulot. Donc on n'avait pas de problème de boulot, raison pour laquelle aussi ce n'est pas pour un boulot que je partirais en France. Ce n'était pas du tout la même époque. Et puis, donc, à la fac, j'étais à la cité universitaire et un soir, il y a une amie qui devait aller danser et moi, j'étais voilà, c'était toujours la forteresse du corps, impossible de connaître un garçon. J'avais 20 ans peut-être, mais c'était comme ça. Je ne pouvais pas concevoir une relation avec un amoureux ou un homme. Et un jour, il y a celle qui habitait dans la même chambre, qui me dit « Tu sais, je devais aller danser, en fin de compte, je ne peux pas y aller, si tu veux aller à ma place. » Bon, je m'aventure pour la première fois. Et c'était un club de coopérants français, c'est pour ça qu'on osait y aller. Hein. Si c'était des Tunisiens purs à 100%, on n'aurait pas été. Donc je débarque moi aussi là-dedans, toute timide, ne sachant pas danser rien du tout, et je connais donc celui qui deviendra mon mari. C'était donc un coopérant d'origine alsacienne, mère de Colmar, père de Bretagne, donc un pur produit français. Mais pour moi, c'était très bien, parce que moi, qui étais incapable de tisser la moindre relation, de montrer mon corps à quelqu'un qui était de ma religion, de mon pays, eh ben, le français, c'était bien, parce que c'est comme, je dis, c'est comme pour un voleur la nuit. J'allais faire les choses et personne ne le saurait. C'était la seule, pour moi, la seule occasion pour pouvoir exercer un minimum de liberté avec un homme qui ne connaissait pas ma langue, qui ne connaissait pas ma religion, qui ne connaissait rien du tout et qui pouvait ne rien dire. Alors, donc, j'ai commencé à avoir cette relation avec donc, celui qui deviendra mon mari. Alors, 5 ans après, je vais l'épouser en France sans le consentement de ma mère. Parce que pendant très longtemps, ma mère avait plus ou moins l'idée qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle n'aurait jamais compris ni accepté que j'épouse un infidèle. Il faut voir, c'est ça, ces termes, un non-musulman. Donc, on a essayé de trouver des parades, des mensonges. Et donc, à un moment, on lui a dit, mais non, c'est un Libanais. Comme elle ignorait que parmi les Libanais, il y a des chrétiens aussi, pour elle, un Libanais, c'est un arabe, donc c'est un musulman. Et là, elle ne l'avait pas encore vu, elle a accepté. Bon, des années plus tard, ils deviendront très copains. Mais au début, c'était de l'ordre de l'impossible. Donc, là, on ne va pas tomber donc, dans le mélo, ça s'est bien passé. Parce que très souvent, je suis invitée à des émissions, on me dit, raconte-nous la rupture avec ta famille quand tu as épousé un Français. J'ai dit, mais non, je n'ai pas rompu. Raconte-nous, et là, on en parlait tout à l'heure, mais pourquoi tu ne détestes pas ta mère ? Avec tout ce qu'elle a fait, elle t'a pas permis d'aller à l'école. Et je dis, mais d'abord, nous sommes dans un monde, une civilisation qui n'est peut-être pas celle de famille je vouais et qui dit, le paradis est sous les pieds de vos mères. Donc, on ne peut qu'aimer nos mères. Et puis, je suis très, très tunisienne dans ma façon d'être dans le consensus. Vous savez, les Tunisiens, c'est comme ça. Même quand ils font la révolution, ils arrivent toujours à se mettre d'accord. Vous l'avez vu, il n'y a jamais véritablement de violence. Bourguiba était le maître absolu de la négociation et du consensus. Donc, voilà, on n'est pas dans la rupture, on est dans une forme de survie, de culte de la vie qui fait qu'on ne rompt pas, on essaye toujours de trouver une solution. Donc, je connais ce monsieur, j'arrive à Paris, les années 80, et quel Paris de l'époque, c'était extraordinaire. On arrivait, on n'était pas du tout des musulmans, des arabes, c'était avant les attentats, avant Daesh, avant tout ça. Nous étions des étudiants du tiers-monde. Donc on était subsahariens, on était maghrébins, etc. Et on venait étudier dans la ville Lumière, et après on repartait chez nous, puisqu'on venait d'avoir nos indépendances et qu'il fallait absolument construire nos pays. Bon, certains ne partent pas comme moi, mais c'était quand même une autre mentalité. Et alors, donc, on était contents d'être là, et moi, je me gavais de tout. Je me gavais de fromage, je me gavais de shopping, et j'adorais la bière, et je me gavais de bière, et donc c'était, voilà, c'était la consommation pure et simple. Sauf que, quand j'arrive à l'époque, pour que vous ayez une carte de séjour, il vous faut un sujet de thèse. Et donc, vous vous inscrivez. Moi, je voulais m'inscrire à la Sorbonne, et il fallait un sujet. Et je me suis souvenue que dans mes cartons, j'avais apporté une quinzaine de pages que mon professeur de fac, qui est un Français, qui s'appelait Le Maire et qu'on appelait La Mère, tellement son savoir était immense. Et un jour, il m'a mis sur le bureau, comme ça, il m'a dit, lisez ça, 15 pages, ça s'appelait Une nièce de Lamartine, Valentine de Saint-Point. J'ai pris ça, je suis partie. Et j'ai pratiquement pas lu. Donc quand j'arrive à Paris, je cherche un sujet de thèse, je n'ai rien. Et dans mes cartons, je trouve cet article sur Valentine de Saint-Point. Et ce sera 15 ans de passion et de recherche sur cette nièce de Lamartine. Alors, en fait, donc, je ne peux pas vous raconter son histoire, ça prendrait 2 heures. J'ai écrit plusieurs livres sur elle, dont un qui s'appelle Valentine d'Arabie. C'est l'arrière-petite nièce de Lamartine qui a eu un itinéraire extraordinaire, qui était l'égérie du futurisme, qui était une scandaleuse absolue, et puis qui, à un moment, rompt avec l'Occident, part en Égypte, veut faire comme Laurence d'Arabie, défend les Arabes, se convertit à l'islam et meurt dans un état de misère absolue. On l'appelait la folle du Caire, et on a dû vendre ses dessins, dont quelques-uns étaient les dessins de Rodin, parce qu'elle posait pour Rodin, bien sûr, et de Mucha, et pour pouvoir l'inhumer décemment. Et cette femme, donc j'ai passé 10 ans à la fac, et puis après, pour écrire, etc. C'était ma première carte de séjour, Valentine de Saint-Point. Ma deuxième carte de séjour, c'est ma belle-mère, Geneviève. Alsacienne, comme je vous disais, protestante convertie au catholicisme par amour pour son mari. Voilà. Donc, je l'ai appris comme ça et je me suis dit, mais cette famille, elle est portée sur les conversions, puisque mon propre mari, quand il était à Tunis, il s'est converti à l'islam. Et donc, je me suis dit, bon, c'était la génération B68, il avait besoin d'un nouvel ancrage, c'était les cheveux longs, l'Orient, Sherazade, enfin tout ça, a fait en sorte que l'islam l'a attiré, il s'est converti, il a commencé à faire son ramadan, ses prières et tout ça. Donc moi j'arrive alors vous imaginez le choc de la fête de la bière à Colmar. Parce que ma première sortie, moi, c'était la fête de la bière. Et je me suis retrouvée, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la fête de la bière, il y avait un monde fou, je crois que j'étais la seule musulmane là-dedans, et j'arrive. Donc, je connais ça, je commence à appréhender, mais je goûte quand même le kouglof de ma belle-mère. Mais imaginez toujours, donc, une jeune arabe, elle est myope, elle est timide, elle adore le Coca-Cola, comme tous les étudiants du tiers-monde, ce que ma belle-mère ne buvait jamais. C'est une famille alsacienne qui s'appelle Kiner, donc une famille très très traditionnelle avec les armoiries, tout ce que vous voulez, et moi qui débarque, une berbéro-arabe bédouine, et alors qui croit que quand j'arrive chez ma belle-mère, ben je peux me comporter comme un roi, comme une reine, puisque c'est ça la valeur de l'hospitalité arabe. Mais en fait non. Parce que le premier jour, mon beau-frère vient me dire, Fawzia, écoute, regarde bien, sur le lavabo, il y a tes cheveux qui sont tombés. Alors moi, j'étais myope, je ne pouvais pas voir. Et de toutes les façons, même s'il y avait des cheveux, pour moi, ce n'était pas à moi de les nettoyer, c'était aux autres. Et j'étais donc l'invitée, donc la reine. Et donc j'ai compris que, hop, il fallait absolument que je change, que l'hospitalité, ce n'était peut-être pas ça, que je ne pouvais pas demander tout. Alors Geneviève, elle me console. Et elle me console surtout en mettant la coiffe de Colmar. Alors, j'ai des photos avec la coiffe de Colmar, il faut voir ça. Et pour moi, c'était vraiment, le jour où elle m'a mis ça, c'était ma carte de séjour. C'était vraiment, vous savez, l'intégration, elle n'est pas que dans la loi, elle est dans le regard de l'autre, elle est dans cette attitude de cette femme qui était d'une générosité, d'une compréhension extraordinaire. Une compréhension telle que moi, je passais mes après-midi, elle habitait à Metz. Alors, il y avait elle qui lisait sa Bible, il y avait mon mari qui lisait son Coran, et moi, j'étais au milieu en train de fumer une cigarette, l'air de rien, je n'avais rien à faire avec ni le Coran ni la Bible. Donc, vous voyez, c'était une démarche tout à fait... Alors, mon mari veut faire Ramadan, pas de problème, je lui fais le bric à l'œuf et la soupe, mais moi, je ne fais pas le Ramadan, c'est comme ça. Et mes enfants ont été éduqués comme ça, il y a un choix à faire entre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc, 40 ans de France depuis, l'amour de ce pays bien sûr, l'effort pour faire en sorte que la loi du pays soit la mienne, et des enfants que j'ai fait à la France, et un métier, et des métiers, et de l'écriture. Voilà, je ne veux pas aller plus loin dans le récit. Je voudrais juste vous inviter maintenant, non pas à imaginer, mais à réfléchir sur certains sujets. Puisqu'il s'agit d'exil. Et moi, quand on m'a contacté pour cette thématique, j'ai dit non, l'exil, moi, ça m'embête, cette histoire. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a une différence entre exil et migration. Je trouve que l'exil, pour qu'il y ait exil, il faut qu'il y ait une véritable épreuve de déplacement. L'exil peut être un bannissement, là c'est un exil. L'exil peut être fondateur, c'est celui de Napoléon, c'est celui de Bourguiba, c'est celui... Donc il y a quelque chose qui naît avec l'exil. Je trouve que nous, dans notre temps à nous, en tout cas ma génération, ça n'a pas été l'exil. Personne ne nous a forcé à partir de chez nous. Nous ne partions pas parce qu'on mourait de famine ou parce qu'on voulait un boulot. On partait pour les études, on partait dans une forme de légèreté extraordinaire. Et donc, on était des migrants, tout simplement. Pourquoi dire exil ? Là où il s'agit tout simplement de migration. Alors, l'autre question, est-ce que les femmes qui s'exilent sont dangereuses ? Je pense véritablement là que oui. Parce qu'à partir du moment où une femme traverse la frontière, c'est un tabou qui tombe. Je vous ai décrit mon village. La femme est l'identité du clan. C'est pour ça qu'on la voile d'ailleurs. La femme est l'intime par essence, celle qu'on ne doit pas montrer aux étrangers, celle qui ne doit pas passer le seuil de la maison. Et voilà des filles qui non seulement sortent, qui se dévoilent, qui passent la frontière et qui épousent un homme étranger. Donc, on a fait tomber tous les tabous, et c'est pour ça que c'est toujours ressenti comme quelque chose de scandaleux, mais en tout cas de pas normal. Et c'est pour ça que il faut travailler sur la mémoire des femmes et de la migration, parce qu'elle n'a pas encore été abordée. Nous, au Parlement des écrivaines francophones que je préside, notre prochain bouquin, ça va être l'histoire des migrations racontée par les femmes. Parce que souvent, les lois ont été faites par des hommes, l'histoire de la migration, le planning, quand on fait venir les familles, le regroupement familial, tout ça, ce sont des procédures très, très masculines. Mais on n'a pas recueilli la mémoire des femmes. Quand elles émigrent, quand elles viennent, comment elles transmettent, qu'est-ce qu'elles vivent comme joie, comme tristesse, comme ouverture, tout ça, à mon avis, il y a lieu de le voir, et ça risque de remodeler, redéfinir la notion même de migration et d'exil. Maintenant, il y a une question, donc, réfléchir sur la langue. Cette langue donc, que j'ai découverte au lycée, qui n'est pas du tout la langue de mes grands-pères, qui est une langue complètement étrangère, et donc que j'ai cru aimer parce que je croyais aimer mon professeur. Pendant très longtemps, j'ai été à la recherche d'un pays, j'ai compris bien plus tard que, en fait, je suis venue dans ce pays, non pas du tout par amour pour un homme, non pas du tout parce que je me suis mariée avec lui, non pas pour chercher un boulot, non pas, je suis venue pour une langue, je suis venue pour elle. Je pense que les langues aussi, ça vous fait déplacer. Je pense que les langues aussi, ça peut vous construire une patrie. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est pas l'avion, maintenant. C'est dans cette langue que je me retrouve. Et c'est dans cette langue qu'il y a cette autre recherche que j'essaye d'entamer, qui est celle de l'altérité. Je pense que nous, dans la culture arabo-musulmane, malheureusement, une forme d'handicap de l'altérité. Nous restons comme étant la définition des choses, le référent. Et nous avons cette incapacité de nous mettre dans la peau de l'autre, d'être dans l'autre. Et moi, petit à petit, plus j'avance, plus j'ai récupéré le jeu des femmes, le jeu des Sherazades qu'elle n'a pas prononcé, je l'ai eu, plus j'ai envie maintenant d'aller au-delà du jeu, de dire « je est un autre peut-être » et de chercher cet autre. C'est ça, cette recherche qui, à mon avis, est vraiment importante. Et je veux dire aussi que l'antidote à l'exil est l'humain des femmes. Je pense qu'en chaque femme, il y a, non seulement il y a une partie de nous, mais il y a une patrie pour nous. Et ça, je l'ai senti avec l'expérience du Parlement. Nous sommes 175 femmes qui viennent du monde entier. Nous avons un partage, le fait d'écrire, le fait d'être femme, d'être engagée dans le combat des femmes, le fait d'écrire ensemble dans une langue, mais en y partageant nos imaginaires, nos traditions, nos revendications, nos corps. D'ailleurs, quand on parle nos corps, chacune parle à sa façon, c'est extraordinaire. Et ça, ça a créé pour moi un autre territoire, qui est souvent un territoire de grâce, un territoire où on peut se retrouver, où on peut se sentir chez soi. Et cette solution du féminin est vraiment importante. Alors, comme j'ai commencé par lire une phrase, je vais terminer par en lisant une autre phrase et en disant, pour ne pas bafouer, aujourd'hui, on peut raconter, on peut s'exiler, se battre, désobéir, mais ne pas mourir comme Sherazade. On rencontre une Geneviève et la musulmane que je suis trouve en elle une seconde mère et une épaule pour rire et pleurer. Oui, Geneviève est ma patrie à moi, quand Sherazade est le fantasme des autres. J'ai oublié de dire quelque chose sur Geneviève. C'est qu'un jour, son fils est revenu et il a dit, non, la voisine a téléphoné et elle a dit, vous savez, on sonne et Geneviève n'ouvre pas. Elle était seule, à Metz. Et donc, son fils dit, essayez de voir, on force la porte et on trouve Geneviève au sol et elle était malade. Et donc, la voisine dit, votre mère est malade, il faut venir. Et elle a 4 enfants, et chacun avait une occupation. Donc moi, j'ai écouté. Bon, l'autre, il avait ses enfants, je ne sais pas quoi, l'autre son boulot. Donc j'ai rien dit, j'ai pris un sac, j'ai pris le train pour Metz, et j'ai débarqué. Donc j'ai sonné, et quand Geneviève m'a ouvert, elle avait un masque de... Pas de colère, mais de... Comment dire? Elle était pratiquement choquée. Et moi, je me suis dit, je ne comprends pas, je viens pour l'aider et elle n'est pas contente. Et en fait, j'ai compris plus tard que dans le monde, peut-être dans, occidental et chrétien, eh bien, on ne montre pas sa souffrance. Alors que nous, on crie tout le temps, on se griffe les machins, etc. Et Geneviève ne voulait pas que je voie sa souffrance. Il y a une sorte de pudeur que moi, je n'avais pas comprise. Donc, elle a ouvert la porte, j'ai dit, vous inquiétez pas, vous regagnez votre lit, j'ai fait la soupe, j'ai fait je ne sais pas quoi, je suis restée 3 jours, 3e jour, j'ai pris mon sac et je suis repartie. Et des années plus tard, il y avait une réunion familiale, et elle a trouvé moyen de dire à ses enfants qui étaient tous réunis, eh bien, le jour où je suis tombée malade, la seule qui est venue, c'est Fawzia. Donc, c'est Fawzia qui a fait l'éloge funèbre le jour où elle est morte, donc à Metz. Voilà encore un souvenir donc de Geneviève. Et puis l'exil, ce n'est pas forcément vécu sur le mode tragique. Ça peut être léger, ludique, profond, ouvert sur d'autres exils, portant le risque de l'autre, c'est-à-dire cette partie de l'humain en nous qu'on ne peut pas feindre d'ignorer ni de rejeter. Le salut du monde, qui à mon avis viendra des femmes, nous rappellera toujours cet impératif féminin, celui du partage et de la vie, quel que soit le parcours suivi. Je vous remercie.